Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La vie claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. N'est-ce pas Didier?
Plutôt deux fois qu'une.
Eh bien justement, aujourd'hui pendant l'alerte discount, les deux magrets de canard origine France sont à 14,90€ le kilo.
À seulement 14,90€ le kilo? Ni une ni deux, j'en prends quatre.
Et qu'allez-vous faire avec tous ces magrets?
Vous inviter à dîner.
Oh, ça c'est sympa Didier.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Magrets de canard cru, barquette de 800 grammes environ, les canards dosés en volaille française. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Respire. Tu ressens cette liberté? Viens vivre l'incroyable. Ça y est, on y est. Et regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunidad Valenciana. Méditerranée en live.
TF1.
Voice, les Super Cross Battle avec Jennifer en super coach, ce soir sur TF1 et en streaming sur TF1+, en association avec les Indes Radio.
Vous écoutez Sud Radio, les 19h passées d'une minute.
Parlons vrai.
On parle vrai, on parle rugby au cœur de la mêlée. Dans un instant, avec Yohann Huger, toute l'équipe Sud Radio et vous, les auditeurs, au 0826-300-300 pour revenir sur ce week-end rugby et ce multi de la 23e journée. Mais avant cela, un point sur l'actualité avec Florian Pierra. Il est avec nous. Bonsoir Florian.
Bonsoir à tous. Ambiance électrique à Malmö ce soir en Suède. C'est là que se tiendra à 21h la finale de l'Eurovision dans un contexte tendu autour de la participation d'Israël au concours européen de la chanson. Entre 2 et 3000 manifestants sont rassemblés pour le moment dans le calme à Malmö. Le candidat néerlandais Joost Klein a lui été disqualifié à la dernière minute après une altercation avec une cadreuse. C'est une première depuis la création du concours. La France, elle, sera représentée par Slimane et sa chanson « Mon amour », le chanteur qui a d'ailleurs interrompu cet après-midi sa répétition pour tenir un discours sur la paix. Également dans l'actualité, toujours plus de teufeurs à Parnay, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Une rave party illégale est en cours depuis un mercredi soir sans l'accord du propriétaire du terrain agricole. La préfecture dénombre aujourd'hui 10 000 personnes sur place, soit 3 000 de plus que la veille. 95 teufeurs ont été pris en charge par les secours. En Alsace, 3 policiers blessés après un refus d'obtempérer. Tôt ce matin à Wittenheim, près de Mulhouse, un chauffard a foncé sur les forces de l'ordre lors d'un contrôle. Le pronostic vital des fonctionnaires n'est pas engagé. L'automobiliste qui était alcoolisé au moment des faits a été interpellé. Il est déjà connu des services de police. À l'étranger, l'Afghanistan en proie une nouvelle fois de terribles crues. L'ONU a déploré aujourd'hui plus de 300 morts dans le nord du pays. Après un hiver très sec dû au changement climatique, l'absorption des pluies par les sols devient difficile. Les sports en foot, il a toujours tout donné pour le club. Le coach du PSG, Luis Enrique, a rendu hommage cet après-midi en conférence de presse à Kylian Mbappé. L'attaquant a officialisé son départ à la fin de la saison. C'est une légende du club, a déclaré à l'entraîneur. Et puis un mot de tennis avec le Masters 1000 de Rome et l'élimination de Rafael Nadal cet après-midi au deuxième tour, sorti en 2-7 par le Polonais Hubert Hurkacz. L'Espagnol, ex-numéro 1 mondial, a toutefois été ovationné par le public. Notez également l'élimination du Français Corentin Moutet. Bonne soirée à tous.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée, le magazine Sud Radio pour revenir sur tout ce qui est chaud dans ce week-end rugby, ce week-end top 14, 23e journée. On est à 4 journées de la fin de la phase régulière, autant dire que tous les points sont importants. On va y revenir dans un instant. On est heureux d'accueillir dans cette émission Yohann Huger. Bonsoir.
Bonsoir messieurs.
En studio, pas de week-end pour Johan.
Pas, non, on est là. On est au travail. C'est pas Guéron, nous. Hein.
Ok. Johan, bien sûr, qui est là.
On n'est pas à Marrakech, en train de dans le désert d'Agafa et tout ça. Nous, on est
au boulot. Ouais. On est au boulot. On a les manches retroussées. On est là pour vous débriefer cette 23e journée parce qu'il s'est passé plein de choses. On suit également la nationale, les demi-finales avec Nice-sur-Aisne et Narbonne-Carcassonne. C'est Antoine Mazer qui va va nous suivre ça pendant cette émission. Et puis bien sûr, Alexandre Priam qui est avec nous, tout comme Quentin Cabanis et toute l'équipe. Et vous, bien sûr, les auditeurs Sud Radio, 0826 300 300. Et puis également, vous nous suivez sur les réseaux, le hashtag Sud Radio Rugby. On va rappeler, tiens, je sais pas si tu es d'accord, Anto, Alexandre, on va rappeler les résultats du top 14. Mais avant cela, un petit point quand même sur la première chip anglaise, parce que toi, tu as envie aussi d'aller un peu outre-Manche. Taïre, il fait un peu chaud en France, donc tu veux prendre le frais.
Ah, j'ai été dragué là, comme il le faut. Northampton, ils ont pas été très contents d'avoir été éliminés en demi-finale de Champions Cup. Du coup, bah ils affrontaient Gloucester aujourd'hui. Il y a pas eu match. Mais alors, il y a pas eu match dans des proportions rares en fait. 1112 mètres parcourus ballon en main à 135, sans tricher. Tiens, devine le score, François.
Je sais pas, 44-0. C'était à la mi-temps.
Johan, c'est
pas
ça. Ouais. À la mi-temps, il y avait 40-0.
Ouais.
70.
90-0.
Ouais. En
90-0.
C'est ça, à peu près ça.
Ah oui.
90-0. Non, mais c'est hallucinant. Beaucoup. 40-0 en première, 50-0 en
seconde.
C'est savoir
si Gloucester, l'équipe qui a mis Gloucester, c'est ça le plus important.
Non, ouais. Mais attends, 40-0. Bah, les titulaires, hein, Stephen Varney était là, Atkinson était là.
Ils sont passés à côté de leur match.
Là.
Les Gloucestermen. Ils sont passés à côté de leur match, c'est sûr.
Alors là, franchement, François, tu peux pas trop te tromper là. Merci de l'analyse.
C'est très long. Mais quand même, on va plutôt se concentrer sur le top 14 bien de chez nous parce que c'était le retour du top 14 après la Champions Cup. Et à 4 journées de la fin, c'est vrai que je le disais dans le sommaire, tous les points sont importants. On va récapituler avec toi, Alexandre, si tu veux bien, les résultats. Parce qu'il y a eu tout d'abord, en début d'après-midi, le bel exploit de Clermont à Perpignan. Hein.
Une sensation vraiment. Perpignan qui tombe à domicile face à Clermont, 28-35 en faveur des Auvergnats. Un point d'écart seulement il y a eu entre Castres et Montpellier dans le multiplex. Victoire des Tarnais face aux Montpellierains, 27-26. Victoire à l'extérieur de Bayonne au Racing 92, enfin à Auxerre, à la Baie des Champs face aux Franciliens, 37-28. Victoire à domicile de Toulon face à Lyon, 30-24. Pas de point de bonus défensif pour les Rodaniens. Cruel pour les hommes de Fabien Gégène Bacher. Et puis le bonus offensif cette fois-ci pour Pau face à Oyonnax, 39-17 face donc à des joueurs de l'un qui sont très très proches désormais de la Pro D2.
Johan Huger, notre consultant, notre invité permanent, voilà, qu'est-ce que tu retiens de ces quatre résultats du multi? On va revenir sur le Perpignan, mais sur ces quatre résultats du multi, voilà, la victoire de Castres, celle de Bayonne au Racing, qu'est-ce que tu retiens?
Celle de Bayonne au Racing, tout le monde les a enterrés. Ils sont passés tout proches de l'exploit face au Stade Français. Ils sont fait rattraper dans les dernières minutes, une seconde mi-temps où ils sont un peu endormis. Et là, ils ont à 15 contre 14, un match complètement débridé, complètement fou. Ça partait dans tous les sens. Et ils ont réussi à gagner ce match. Première victoire à l'extérieur cette année pour les Bayonnais. Au bon moment pour eux. Ils étaient fatigués.
Ils sont sauvés pour toi, les Bayonnais, avec cette victoire à l'extérieur. C'est leur première, je crois, de la saison.
Ouais, c'est première de la saison. Ils sont sauvés, bien sûr. Ils sont sauvés. Il n'y a pas de...
48 points hein, ce soir.
Il n'y avait pas de match, en gros. Je pense que Montpellier va se concentrer sur les matchs à domicile et essayer une grosse réception la semaine prochaine face à Toulouse. Et des Montpellierains qui sont toujours dans le coup quand même. Ils perdent, mais pas de beaucoup. C'est dommageable pour eux quand même.
Bayonne reçoit Perpignan, va au Oyonnax et ensuite, dernière journée, accueillera Castres. Voilà le programme des Bayonnais. Voilà, Alex, toi tu penses que ça y est pour toi, ce succès a entériné le maintien bayonnais?
Bah, il y a 15 points possibles à prendre en comptant les bonus. Ils ont 8 points d'avance. Franchement, je pense que ils ont 2 réceptions. Je pense qu'ils vont en gagner au moins un. S'ils en gagnent au moins un, eh ben ils sont maintenus. Donc je pense que c'est bon pour Bayonne, ouais.
Et puis cette coupure Coupe d'Europe leur a fait du bien, je pense, de se régénérer, de penser à autre chose peut-être, de une vie de groupe. Et voilà, sur ce match-là contre le Racing, on les a sentis régénérés et surtout avec des essais incroyables.
À l'inverse, le Racing donc qui se déplacera à Lyon, qui
pour le Racing.
Accueillera Pau et dernière journée, le Racing se déplacera à La Rochelle. Le Racing peut-il terminer dans les 6? Première question, peut-il terminer barragiste à domicile? Deuxième question.
Bah, qui se concentre d'être dans les 6? Je pense déjà, parce que recevoir Pau qui a aussi joué une place dans les 6 directement avec eux, ils sont à 2 points d'écart. et le déplacement à La Rochelle qui va vouloir son pesant d'or. Donc, s'ils sont qualifiés, après ils étaient à 14 tout le match, ça a été compliqué, mais on n'a pas senti une équipe du Racing fort.
Bon début de match quand même, et deux essais tambour battant là d'entrée, on avait l'impression justement qu'ils étaient bien lancés. C'est vrai que ce carton rouge a un peu changé quand même la donne pour eux.
Ouais, même avant le carton rouge, ils prennent des essais relativement lointains, faciles. Dès qu'ils marquent des points, ils reprennent des points derrière. Voilà, il manque ce voilà, c'est cette base solide sur laquelle ils pourraient se reposer et être sûrs de leur force. Aujourd'hui, ils ont une très bonne conquête, ils ont des joueurs exceptionnels, avec un retour de Tuisova toujours aussi performant, même après 360 jours d'absence en top 14. Mais il manque cette structure un peu collective pour aller plus loin, justement.
Oui. La stat,
il n'y a pas un joueur au-dessus de 7 plaquages. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas un joueur au-dessus de 7 plaquages dans cette équipe du Racing 92. Et il y a des performances qui sont franchement mauvaises hein, aujourd'hui. Sia Colissi, 4 plaquages réussis, 2 manqués, 3 ballons perdus au sol. Max Spring, 2 plaquages réussis, 2 manqués, 2 ballons perdus au sol. Arundel, 4 ballons perdus. Enfin voilà, il y a quand même des joueurs qui sous-performent dans cette équipe du Racing 92, au-delà même de la physionomie du match. C'est un problème sur la saison. Le Racing qui est la 12e équipe à domicile cette saison.
Oui, ouais, mais ils ont fait beaucoup de ballons au sol, beaucoup d'en avant. Et quand on enchaîne, je regardais les Bayonnais et Toulouse aussi en Champions Cup. Dès que l'équipe en face tient le ballon, c'est soit des essais, soit des points. Ils n'arrivent pas à être consistants en défense sur minimum 8 phases de jeu. Il y a toujours une faute, quelqu'un qui vient faire une faute. Et voilà, c'est signe d'une équipe pas trop en confiance.
Castres va se déplacer à Clermont, Castres va accueillir le Stade français, Castres va ensuite se déplacer à Bayonne, Castres est revenu dans la course au top 6 ce soir. Peuvent-ils les Tarnais faire l'exploit? Ils sont à 2 points de La Rochelle ce soir, Johan.
Ils peuvent faire l'exploit, bien sûr. Tout le monde, à ce jour-là, tout le monde peut faire l'exploit. Maintenant, il y a une forme de régularité en top 14, il y a une saison en dents de scie. On les sent fatigués malgré tout et pour moi je les vois pas rentrer dans les 6.
La stat à retenir avec toi Alexandre
sur ce Castres Montpellier, ouais. Quand même les Castres, 79% de réussite au plaquage, c'est pas top. 12 pénalités, c'est pas top. 7 sur 10 en touche, c'est pas top. 4 sur 8 en mêlée, c'est pas top. Et tu gagnes,
c'est pas top.
Ouais. Et tu gagnes. Comment tu l'expliques?
Mais alors justement, est-ce qu'on peut l'expliquer avec à l'inverse une stat Montpellier-Rennes qui a fait plus de fautes, 27-26 le score final, on rappelle, hein, point de bonus ouais, défensif
moins,
tout de même pour
moins
les Montpellier.
De fautes du côté de Montpellier, plus de plaquages réussis, plus de passes réussies, moins de ballons perdus, plus de franchissements, plus de défenseurs battus. Comment l'expliquer? Moi,
ils ont laissé 7 points les Montpellier-Rennes.
Ouais. Et ben voilà, j'attendais que quelqu'un ait la petite lumière effectivement, voilà. Ce qu'on avait évoqué en avant-match. Eh oui, avec toi François, on avait dit le problème c'est la qualité au but de Montpellier. Montpellier c'est une des pires équipes face au poteau cette saison.
Et
ça c'est vérifié ce soir, ça coûte très cher.
Boutier en plus, donc
mais là ce soir ça coûte probablement une victoire à l'extérieur. Oui,
elle avait coûté aussi la victoire face à Perpignan malgré tout, parce que c'est vrai que ça leur avait fait défaut à la fin du match. 9 points je crois qu'il avait loupé en première mi-temps. Voilà, 40 points ce soir pour les Montpellierains. Ils ont 7 points d'avance, 7 points de retard sur les Lyonnais, on est d'accord ou pas? Avec ce décompte, oui, toujours 7 points
oui,
d'écart avec les Lyonnais qui sont 12e et qui ont été battus à Toulon. On rappelle le programme,
matchs, hein,
le programme des Montpellierains. Ils vont accueillir le Stade Toulousain qui ira juste avant la demi-finale de Coupe d'Europe, donc on va dire dans une configuration où ça va tourner. Ensuite, réception de Lyon, je pense que c'est là que tout va être ciblé pour les Montpelliérains. Et puis la dernière journée, Montpellier va se déplacer à Clermont où il ne sera pas facile d'aller s'imposer. Ça sent quand même le match de barrage pour les Montpelliérains.
Moi je pense qu'ils s'y préparent quand même malgré tout à jouer ce barrage quand on a 7 points de retard à 3-4 journées de la fin. Et après la défaite contre Perpignan, ils savaient que c'était le match crucial pour eux. Voilà, je pense que dans leur tête, ils commencent à regarder qui ils vont pouvoir affronter. Ils peuvent pas ne pas penser à ça. ce match cet accès à ce match.
Voilà, ce qui est paradoxal, moi je trouve, en suivant quand même ces Montpellierains depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'on sent vraiment le manque de confiance, parce que dans le jeu il y a des choses intéressantes. Quand il marque ses essais en début de match, il y a même une facilité. Voilà,
c'est une équipe qui est en plein doute, on le sait, on le voit, ils ont enchaîné. Je crois 5 ou 6 matchs sans défaite. Et puis voilà, un petit grain de sable, ça vient rayer la machine. Et ils sont repartis, comme en début de saison, avec des défaillances au but. Et voilà. Mais le buteur, c'est l'image de l'équipe. Si le buteur doute, c'est que l'équipe en soi ne va pas très bien.
Voilà.
Tu dis ça, mais c'est le Stade Toulousain le moins bon face au poteau en top 14.
Est-ce que t'es obligé de parler de Toulouse, Alex? On parle pas de Toulouse. Tu sais pourquoi? Les joueurs sont en équipe de France. C'est normal.
Oui, c'est pour ça. Oui, voilà. Bah, ça c'est la réponse des Toulousains toujours. Ça.
Mais c'est vrai. C'est vrai. tu sais qui a été le buteur pendant les doublons quand même?
Malia.
Rosmania, pardon. Oui.
Donc, sans lui faire injure, mais moi je l'avais jamais vu buter auparavant.
Quand même un peu.
Mais non, je l'avais jamais vu buter auparavant. Donc, et je pense qu'il a rempli son
rôle. Il est argentin.
Ouais, mais il a rempli son rôle, franchement, très bien pour moi. Hein. Et il a enquillé quand il le fallait. Et ils ont gagné les matchs, les Toulousains.
Ouais, on n'est pas inquiet pour les Toulousains qui accueilleront quand même le Stade français une semaine après leur magnifique qualification en Champions Cup dont on a parlé face aux Harlequins, dont on a parlé tout au long du week-end
une
dernier
belle équipe encore,
et de la semaine. Ouais, belle équipe effectivement. On y reviendra. Concentrons-nous sur ces matchs du multiplex Toulon-Lyon. Toulon s'est fait peur quand même, Alexandre, t'as commenté ce match pour nous dans le multiplex. 30-24 le score, 3 essais partout, voilà. Mais Toulon s'est fait peur, c'est un peu curieux quand même parce que on les sent quand même un peu au-dessus en début de match.
Oui, on les sentait au-dessus. Les 10 premières minutes, elles sont très claires, elles sont totalement pour les Toulonnais. Mais au final, quand on regarde l'image globale de cette partie, est-ce le meilleur qui a gagné? La question pour moi, elle mérite d'être posée. Ce que tu as dit à l'instant sur Montpellier, on a vu une équipe qui manquait de confiance, mais qui proposait des choses. Pour moi, ça s'applique aussi aux Lyonnais. 9 franchissements à 1 pour les Lyonnais. Et 2 essais marqués dans le jeu, puisqu'il y a un essai de pénalité. Comment tu l'expliques qu'il y ait aussi peu d'efficacité? Le nombre de ballons perdus, 20 ballons perdus par les Lyonnais, ce qui est beaucoup trop. C'est encore une fois un problème de confiance. Après que Lyon revienne sans point de bonus défensif de ce déplacement dans le Var, je trouve ça extrêmement cruel. Lyon a fait un très très bon match. Toulon a été surtout porté par un Baptiste Serein qui a été encore une fois très très bon aujourd'hui.
Ouais, avec 2 passes au pied de Serein, une pour Garbici, une pour Vainicolo, et 2 essais au bout, et notamment la deuxième, elle est quand même exceptionnelle. Essayez de la regarder si vous pouvez, parce que elle vaut vraiment le détour. Juste le programme des Lyonnais, 24e journée, réception du Racing, déplacement ensuite des Lyonnais à Montpellier, ce match va coûter cher, et puis ensuite il y aura Lyon Stade Toulousain lors de la 26e journée.
Pourquoi il va coûter cher, François?
Ah mais parce que si Montpellier bat Lyon et
ça match à 7 points.
Il y a 7 points d'écart ce soir, mais réception du Racing. Le Racing va devoir compenser, donc je pense que ça va être intéressant.
Les Lyonnais à domicile, ils sont quasiment intraitables.
Oui, mais il y aura réception du Stade Toulousain le 8 juin ensuite. Donc réception du Racing, réception de Toulouse, déplacement à Montpellier. Attention. Voilà, moi je.
Attention.
Bon, attention. Voilà, je sais pas, mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Alexandre.
Ah non, mais il faudra qu'on y soit. Hein. Ah non, mais bien sûr. Mais moi, je pense que ça va se jouer sur ce match-là. Hein. Je vois les Lyonnais s'imposer face au Racing et je vois les Montpellierains peut-être être surpris par les Toulousains. Attention.
Oui, ça, il y a peut-être de grandes chances. On verra en tout cas. Ce Toulon-là, un petit peu, un peu up and down, là, comme ça, tu t'en penses quoi?
Non, mais c'est normal. C'est un retour où ils n'ont pas joué depuis une semaine, 15 jours. Donc, voilà, de se remettre la tête à l'endroit, de retrouver leur repère. C'est une équipe qui revient de loin. C'est Toulonnais depuis le retour de Baptiste. Mais avant, ils étaient dans une période compliquée. Donc, il y a des choses à remettre en place calmement. Et on voit encore un grand Baptiste Serein aujourd'hui.
Ouais, Baptiste Serein, cette deuxième passe au pied, voilà, elle est quand même assez diabolique.
Il a été formé où?
Parentis-en-Born. Voilà, Parentis-en-Born, dans les Landes. Une petite stat peut-être? pour éclairer ça avec nous, Alexandre?
Bah, comme je disais, un 9 franchissements à 1, ce qui est quand même assez évocateur. Je voulais souligner le match de Marius Daumont, dont on parle assez peu. Marius Daumont, 124 mètres parcourus, ballon en main, 3 défenseurs battus. Il a été excellent, l'arrière, hein, qu'on voit pas toujours, évidemment, avec la présence de Jaminet dans l'effectif. Mais Marius Daumont, il est formé d'abord à Saint-Barth, Lille, hein, dans les Caraïbes, puis dans les Antilles. Et puis ensuite, eh bien, du côté de la Guadeloupe, ou de la Martinique, de la Guadeloupe. Hein, c'est en Guadeloupe qu'il a été ensuite formé. Avant d'arriver à Toulon, franchement, super arrière, super joueur du RCT.
Formé à Saint-Barth, ça claque quand même.
Ça, c'est la classe. Hein.
Ouais. C'est formé où ? Saint-Barth.
Ça, c'est franchement. Tu pars moins en vacances.
Mais normalement, tu finis ta carrière à Saint-Barth, tu la démarres pas. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Fais comme Félix Panguero, tu vas à Saint-Barth, voilà, pas pour jouer au rugby, mais bon, voilà.
Mais bon, voilà, mais pour être formé à d'autres choses, en tout cas. Voilà. Bon,
catamaran.
Voilà, c'est tout à fait. 19h20 sur l'antenne de Sud Radio. Dans quelques minutes, Fabrice Landreau sera avec nous, sera notre invité. On fait une petite pause, on se retrouve pour parler. Notamment du bel exploit de Clermont à Perpignan. Restez avec nous, c'est au cœur de la mêlée. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
Sud Radio Nice, 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
On va aux courses de chevaux dimanche? Il y a plein d'animations et c'est gratuit pour les enfants.
Dimanche 12 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de Carcassonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 08 89 47 68.
À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, surtout, restez zen.
Pourquoi ?
Parce que pendant l'offre Super Weekend, Lidl propose un appareil de massage shiatsu pour pieds à seulement 33,99€ au lieu de 49,99€.
Moins 32%. Pour les clients, c'est le pied.
Bah, c'est Lidl, patron. Ça coûte jamais un bras.
Oh, j'en ai assez.
Vous voulez un massage, patron ?
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Au cœur de la mêlée avec vous, les passionnés de rugby des auditeurs Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Yoann Huger est là bien sûr avec nous, toujours là au soutien, même les week-ends fériés il travaille d'arrache-pied. Yoann, t'en fort.
L'image de ma carrière,
bien sûr, voilà, c'est je n'osais le dire, voilà, voilà. Ce qu'on peut saluer ce soir, c'est bien sûr les vainqueurs du jour, on en a parlé, la victoire de Castres, de Toulon, du Racing, celle bonifiée de Pau, sur laquelle on va pas s'étendre, mais revenons quand même sur le succès plein de caractère de Clermont qui s'est imposé à Perpignan. Clermont a fait un beau coup, 35-28, c'était le premier match. On va écouter Christophe Furios, le manager clermontois, sur ce sujet au micro de Rémi Ruggiero, qui est là. Eh oui, Rémi Ruggiero, c'est pas Rémi Essegué, c'est Rémi Ruggiero.
Le DS, c'était une semaine extrêmement courte, puisqu'on a repris que mercredi, on avait besoin d'évacuer la déception des Sharks. Deux, on avait besoin de faire bouger les lignes sur l'équipe aussi. Et c'est vrai que quand on est dans des situations comme ça, très souvent, on n'avait pas d'équipe en fait sur le terrain, quoi. Et on a laissé beaucoup trop de situations favorables à cette équipe, quoi. Après, en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. Les rentrants ont été très bons, je trouve. Aujourd'hui, ouais, on a vu une équipe laborieuse dans un premier temps et souveraine en deuxième mi-temps.
Laborieuse en premier temps, souveraine en deuxième mi-temps, voilà. Mais je trouve que ce succès, il vient aussi récompenser pas mal de choses qu'on avait vues assez bonnes de Clermont ces derniers mois. Moi, je vais pas dans le temps court. Quand on remonte, parfois ils n'avaient pas été récompensés, mais cette fois-ci, ils l'ont été.
Ouais, ils ont été récompensés parce que les cadres ont pris aussi. Quand on avait reçu Christophe Furios, il nous avait dit qu'il avait besoin de ses cadres, et je trouve qu'aujourd'hui, ils ont répondu présent. Kremer, Yato,
Roda Pileta, ils ont été incroyables dans la maîtrise, dans la maîtrise de cette seconde mi-temps qui n'était pas facile à aller chercher. Et à contrario, il y a des Perpignanais aussi qui étaient dans une phase un peu moins bien. Donc, ils ont profité de cette phase des Perpignanais où ils faisaient beaucoup tomber les ballons. Ils étaient très approximatifs aujourd'hui, justement pour aller sceller une victoire à l'extérieur et très importante pour eux. Mais ça n'enlève à rien parce que ils étaient vraiment sur une phase dynamique depuis cette demi-finale aussi de Coupe d'Europe.
Ils échouent même le Stade Français Paris. Hein.
Ils échouent de peu. Il faut s'en remettre de cette défaite qui est un peu injuste.
Ils n'ont pas eu le temps de gamberger parce que, comme il dit Christophe, ils ont une semaine très courte. Donc ils ont atterri à Clermont puis ils sont repartis directement à Perpignan. Donc c'est pour ça que cette première mi-temps est un peu laborieuse parce qu'il faut se remettre un peu de tout ça et au fur et à mesure du match, on a senti vraiment c'est clairement toi sûr de leur force quand même.
Clermont hein, qui on va revenir sur les stats Alex, mais Clermont qui recevra Castres lors de la prochaine journée, qui ensuite se déplacera à Toulon et qui accueillera Montpellier lors de la dernière journée. Voilà pour les trois. Il peut se passer des choses, des rebondissements qui peuvent les mener vers le top 6. En tout cas, le maintien semble quasi assuré ce soir grâce à ce succès à l'extérieur.
Oui, on peut le dire ainsi, effectivement, ce succès qui est important pour cette équipe de Clermont. On voulait revenir sur une statistique. Alors, il y en a pas mal. Déjà, une à noter, hein, côté perpignanais, c'est le match de Vérédamou, hein, encore une fois. Vérédamou, il a fait un match monumental. 7 défenseurs battus, 3 franchissements, 3 passes après contact, 25 ballons touchés pour un ailier, c'est quand même énorme. Alors, il va les chercher, hein, les ballons. Il va vraiment les chercher au ras.
Il dézone, comme on dit.
Il dézone énormément. Donc je voulais revenir sur la touche clermontoise 11 sur 13, ce qui est quand même plutôt très correct pour Clermont aujourd'hui. Et puis cette capacité à ne jamais fléchir, c'est-à-dire que il y a à plusieurs reprises, il y a 7, 10 points de retard dans les rencontres et puis ils sont là. Il y a une image d'une équipe qui devient de plus en plus courageuse, qui prend la personnalité, François. Et ce que tu mentionnes quand tu parles du match de la semaine dernière où il fallait, t'aurais pu t'écrouler en fait en étant battu de façon un peu injuste par les Sharks, et ben non. Et j'y vois, alors peut-être que je me trompe, mais j'y vois une petite empreinte Christophe Furios, ce côté tu lâches pas le morceau, quoi. Et c'est peut-être le début de ce que peut apporter Christophe à cette équipe. Ça aura mis beaucoup de temps quand même. Hein.
Oui, mais à surveiller. En tout cas, je trouve que tout au long de la saison, ils sont passés près comme ça à l'extérieur et ce soir, ils l'ont réussi à Perpignan. Tiens,
Clermont top 6. Hein.
Ouais, bien sûr. Clermont top 6.
Mais pourquoi pas
51 points.
Il y a 5 points sur les Rochelais.
Ouais, 5 points sur les Rochelais.
Après, il y a Baptiste Jeannot qui fait un gros match. Ouais. Ouais. Énorme match. Il tient cette équipe à bout de bras. Il a été incroyable dans les rucks. Il a été incroyable sur cet essai qui marque. Il a été très costaud sur ce match-là.
Un petit point sur les demi-finales de National, l'échelon 3, la troisième division, on va dire, du rugby français. Où en est-on, Antoine Mazer?
Et dans la première demi-finale entre Nice et Suresnes, c'est pour l'instant Nice, hein, qui a fini leader de ce championnat de National, qui mène 33-13 face à Suresnes. Et dans l'autre demi-finale, qui a commencé un petit peu après, on joue la 25e minute, et c'est Narbonne qui mène 12-10 face à Carcassonne, avec, on parlait justement de Clermont, un ancien Clermontois, Peter Betham, qui a marqué l'essai de Narbonne. C'est très chaud, on sent que c'est même tendu sur le terrain entre bien sûr Carcassonne et Narbonne. 25e minute de jeu et toujours 12-10 pour Narbonne face à Carcassonne.
Yoann,
une question. Il y a qui monte?
Le vainqueur de la finale monte
et directement.
Exactement. Il y a un accès également jusqu'en National 2 maintenant. La Ligue a vraiment uniformisé les modes de montée et de descente.
Donc le perdant de la finale jouera contre Rouen ou Montauban. Ouais, d'accord.
Ou peut-être Biarritz. Voilà.
Oui. Non, Biarritz. Ou peut-être Biarritz. Arrêtez avec vous, peut-être.
Sûrement Montauban.
Non.
Allez, peut-être, ça fait partie des fins de saison. Il faut l'accepter, même si tu l'as pas trop connu quand tu jouais à Toulouse. Mais les peut-être.
Attends, mais c'est même probable. C'est carrément probable, Biarritz. Hein.
Ils vont à Brive.
On va en reparler dans un instant. Dans un instant également, des invités qui vont arriver sur l'antenne de Sud Radio, au cœur de la mêlée. Voilà, c'est le week-end férié. Vous êtes peut-être en voiture. Faites bien de nous écouter parce qu'on parle rugby, on est passionné. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé. On fait revenir toute la famille. On les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
Sud Radio Tarascon.
95.2.
Sud Radio.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Grâce à votre promo sur le dentifrice Colgate, mon ado a enfin les dents propres.
Ah, tant mieux.
Oui, c'est un vrai progrès. Mais maintenant, vous n'auriez pas une astuce pour le faire sourire? Parce que du coup, on aimerait bien les voir, ses dents.
Rassurez-vous, ça ira mieux avec l'âge. Et du 7 au 18 mai chez Leclerc, profitez de 34% de réduction sur le lot de 3 dentifrices Colgate Total. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc, soit 15,82€ le litre. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sarenza.com, Sarenza.com, Sarenza.com vous gâte. En ce moment, profitez de démarques exceptionnelles sur une large sélection de chaussures, vêtements, accessoires les plus stylés. Pardon, je chante mais j'ai une soirée karaoké ce soir donc je m'entraîne quoi. Allez, jingle.
Sarenza.com.
Voir conditions sur le site.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Au cœur de la mêlée, 19h30, si vous êtes avec nous sur Sud Radio, si vous vous connectez, voilà, vous pouvez nous suivre sur l'appli. D'ailleurs, on est également en vidéo et ça permet de voir que Yoann Huger est avec nous également en forme. Voilà, pas de bronzage ce week-end pour Yoann, mais qui a quand même bonne mine. Voilà, et qui est surtout regardé quand même avec beaucoup d'attention ce week-end rugby. On rappelle quand même la victoire de Toulon, celle de Castres, celle du Racing et celle de Pau dans le multi, victoire de Clermont à Perpignan. Voilà pour les principaux résultats. Au cœur de la mêlée, c'est bien sûr avec vous au 0826 300 300. C'est aussi avec notre invité, c'est notre invité exceptionnel, c'est Fabrice Landreau qui est avec nous. Salut Fabrice.
Bonsoir, comment ça va?
Salut, ça va Fabrice.
Je vois, c'est toujours la forme.
Ben oui, la forme toujours Fabrice, directeur du centre de formation, directeur du rugby du SA15.
Fabrice a la forme.
Ouais, c'est ça, oui, ça sera la future fonction là, dans quelques semaines.
Ouais. Et pourquoi cette nouvelle fonction? Parce que tu avais envie de revenir aux sources de la formation?
Ouais, mais déjà ça, et puis parce que par rapport à notre club aussi qui se structure, donc là j'avais un rôle qui était plus, on va dire, un peu satellite en tant que directeur du rugby, donc on est plus sur la politique sportive et générale, au niveau de ce soit au niveau des infrastructures et puis au niveau des équipes. Et là je vais me centrer vraiment sur la formation parce que le club a besoin d'assises aujourd'hui. On a chez nos jeunes, tous les jeunes sont dans les compétitions nationales. Donc c'était important de continuer ce travail-là qui avait été enclenché. On a la chance d'avoir 7 joueurs issus de notre formation qui jouent en équipe première et qui ont assuré le maintien cette année brillamment. Donc l'objectif, c'est de consolider tout ça et puis d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'on sait que des clubs comme Angoulême, c'est l'avenir et la pérennisation de notre projet en Pro D2 passera par la formation.
Voilà, 58 points donc le à une journée de la fin, le 8 points au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, c'est assuré. Ça a été comment tu qualifierais ta saison, Fabrice, avec le SA15 Soyons Angoulême?
Déjà un grand coup de chapeau à Alexandre Ruiz, qui était quand même le grand artisan de cette réussite, puisqu'il est arrivé en début d'année dans un rôle de manager qu'il ne connaissait pas. Donc il a fallu qu'il pose ses marques, bien encadré par un staff très complémentaire. Et donc ils ont réussi à poser vraiment des jalons et puis petit à petit cette équipe a pris confiance et je vais dire que le terreau était bon parce que l'année dernière le SA15 avait vécu une saison compliquée en se maintenant le dernier match à la dernière minute à Oyonnax qui était promu. Donc voilà, cette équipe a vécu l'enfer l'année dernière et cette année c'est bien construite avec un bon mélange, un bon équilibre dans l'équipe avec des garçons très expérimentés puis aussi de la jeunesse, quelques très belles recrues et donc le travail a été fait avec une fin de saison qui a conforté tout ce qui avait été mis en place et pas forcément réussi en début d'année. Donc ça s'est bien concrétisé, donc un gros boulot de la part du staff, gros investissement des joueurs qui le méritent amplement et tout le monde est satisfait de ce maintien.
Yoann Huger avec nous et sans doute une réflexion, une question pour Fabrice Landreau, notre invité.
Oh, salut Fabrice, félicitations pour ce maintien. Mais non, on t'a vu avec Deborah Est aussi dans le vestiaire. Tu t'entretiens. T'entretiens bien, Angoulême.
Ah, ils m'ont forcé, hein, tu sais. Ils
m'ont on a vu. Hein.
Ah, j'étais obligé, voilà. Bon, écoute, c'était spontané. Puis je pense qu'il faut garder aussi cette joie de vivre, cette convivialité. Je pense que les entraîneurs, les joueurs sont soumis à beaucoup de pression et on prend pas souvent le temps de rigoler, de passer un moment ensemble. Et voilà, c'est arrivé spontanément. Tout le monde s'est un petit peu lâché ce soir-là. Et puis, ça fait rigoler tout le monde. Ça fédère un petit peu plus. Et puis, c'est de se dire aussi que c'est beaucoup de pression, mais c'est avant tout un jeu. Et il faut revenir à l'essentiel et à ce qu'on a connu quand on était tout jeune et quand on chantait soit après les victoires soit après les défaites.
Ouais, lorsque tu jouais troisième ligne, Fabrice, rappelons-le. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu trouves que dans ce rugby-là, ce rugby pro et cette longue saison de Pro D2, on prend moins le temps de partager des bons moments?
Oui, je trouve qu'aujourd'hui les joueurs sont soumis à énormément de stress, énormément de pression. D'une part parce que ils jouent une carte individuelle à chaque fois. C'est quand même des entrepreneurs de leur propre carrière aujourd'hui, donc ils ont des contrats sur des durées qui sont assez courtes. Et puis forcément leur avenir est lié aux résultats de l'équipe et puis des entraîneurs qui se succèdent au fur et à mesure. Donc on passe peut-être un petit peu moins de temps, il y a peut-être un petit peu moins de partage comme ce qu'on a connu François, même Johan pendant sa époque, pour sa génération. On est en train de basculer sur une autre forme. Et donc il faut quand même conserver tout ça, il faut conserver ses accroches et profiter de ces moments-là. Et ça nous transmettre c'est de transmettre ces valeurs-là. Alors je suis persuadé que ça se fait dans d'autres clubs, mais j'ai le sentiment que ça se perd un petit peu.
Et ça veut dire que comment, quand on dirige une institution comme toi, directeur de rugby d'un club professionnel, comment tu arrives à insuffler de la bonne humeur au-delà des résultats? Parce que les résultats aussi, ils rythment, ils cadencent la vie d'un club. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour créer ça, pour pas que ça soit artificiel non plus?
Non, mais il faut que ce soit l'ADN du club. Ça veut dire qu'il faut créer aussi à l'intérieur même de l'équipe. Voilà, il faut mettre en place pas mal de petites choses qui permettent de se réunir, d'apprendre à se connaître, et puis de réunir l'ensemble du club, que ce soit bien sûr le staff, les joueurs, les familles, les partenaires. Il faut qu'on fasse partie de tout ça, et puis aussi dédramatiser, quoi, en disant le sport c'est l'incertitude avant tout. On peut très bien travailler, on peut avoir de très bons joueurs, et puis faire une mauvaise saison et avoir des résultats qui sont pas au rendez-vous, et ça remet pas tout en cause, ça peut pas tout remettre en cause, mais les enjeux sont tellement importants, surtout économiques aujourd'hui, pour les gros clubs, que dès qu'on essaye de vouloir se lâcher un petit peu, soit en chantant ou en partageant une belle soirée ensemble, on est toujours soumis aux réseaux sociaux, toujours soumis à ces médias qui sont toujours là et qui portent un jugement en fait, sans vraiment connaître ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ça aussi qui va peut-être aussi bloquer et coincer un petit peu aujourd'hui les nouvelles générations qui sont devenues complètement addictes des réseaux sociaux et qui gèrent leur image à travers ces réseaux sociaux.
Intéressante réflexion de Fabrice Landreau. Johan, ça t'inspire quoi, toi qui es un récent jeune retraité?
Oui, on a vu les réseaux
très
sociaux.
Très présent sur les réseaux, Johan.
Pas autant que toi, Alex, mais on est ensemble. Mais Fabrice a raison, il faut essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux parce qu'ils vivent avec ça, et donc dans le vestiaire ça fait partie du vestiaire maintenant. Donc pour fédérer, je sais que il n'y a pas si longtemps, on avait un repas du président une fois par mois, repas trois quarts tous les jeudis. Mais au-delà d'instaurer ça, c'est quelque chose
uniquement entre joueurs, que les trois quarts, pas les trois quarts et leur famille ou voilà, non, juste vous.
Non, juste les joueurs. Ah, ouais. C'était le midi ou le soir. On se retrouvait dans différents endroits de la ville, justement, pour faire découvrir la ville aux nouveaux. On pouvait aller marcher Victor Hugo. C'était important pour nous de se retrouver. Alors il n'y avait pas de fête, il y avait peut-être. C'était en semaine, mais on passait un bon moment et des fois le week-end, le dimanche, le président organisait des barbecues avec nos familles, et malgré tout, on pense que c'est anodin, mais c'est très fédérateur et ça fédère énormément sur le club et les familles.
Sauf à Montpellier, les barbecues, ils sont un peu moins fédérateurs généralement.
Ça dépend au niveau de la saison. Nous, ils étaient en début de saison, donc ça allait.
Fabrice, comment tu vas développer ton rôle donc de directeur du centre de formation dans un espace géographique où le Stade Rochelet a déjà quand même bien tissé sa toile, où il y a pas mal de clubs de bon niveau, on pense à Pulboro, à Cognac, à Barbezieux-Jonzac, à Niort, à Rochefort aussi en fédéral 2.
C'est un bassin qui est moins riche, on va dire, au niveau des licenciés que dans certains comités. Ne serait-ce que l'Île-de-France ou même le comité Midi-Pyrénées. En revanche, le fait d'avoir La Rochelle, c'est une véritable locomotive, c'est un véritable allié. En fait, on a des excellentes relations avec le Stade Rochelet, avec bien sûr Pierre Vénère, avec les entraîneurs Ronaldo Garra, qui ont contact aussi avec notre entraîneur Alexandre Ruiz, et puis aussi toutes les personnes qui sont liées à la formation, parce que tout est lié. Hein, on est sur le même territoire, donc on a les jeunes en sélection, ils vont à l'académie à La Rochelle. Nous, l'objectif, encore une fois, c'est que si on a un excellent jeune sur notre territoire et qu'il a le potentiel pour aller vers vraiment le très haut niveau, on va l'orienter directement à le Stade Rochelet. Bien sûr, on va le garder avec nous jusqu'à sa majorité, mais ensuite notre objectif c'est d'envoyer vers le plus haut niveau. Et puis vice versa, je veux dire les garçons qui passent par l'académie rochelaise ou l'UBB d'ailleurs, qui on en a énormément de candidatures de la part des jeunes de l'UBB parce que c'est un très gros bassin. Et bien même chose quoi, ils sentent qu'ils ne peuvent pas forcément passer le cap parce que le niveau est tellement élevé qu'il y a énormément de garçons qui passeront pas le cut. Et dans ces cas-là, eh ben on est des clubs d'appui, hein, des clubs d'appui sur la Pro D2. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile non plus pour eux. Mais bon, il y a Angoulême qui est présent, il y a Périgueux qui est en train de dans la région aussi, Périgueux qui est en train de grandir en national. On a Cognac qui sera en fédéral 1, Barbezieux en fédéral 1, et puis après tous les clubs locaux. L'objectif, c'est surtout que tous ces jeunes-là n'arrêtent pas de jouer au rugby. Et moi, ma hantise, c'est ça, c'est de perdre tous ces jeunes et qui, à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas pu accrocher le haut niveau, ben, soit déroutés un petit peu du rugby et décident d'arrêter pour mener autre chose. Et c'est tellement compliqué, tellement difficile aujourd'hui de fidéliser nos jeunes joueurs qu'il faut leur donner des solutions de sortie et qui gardent cette âme encore d'enfant. Et pour ça, ben, il faut qu'on mutualise nos forces. Alors, bien sûr, on le fait très bien avec le Stade Rochelet, avec tous les autres clubs du comité.
Ouais, on a parlé des divisions inférieures. Tiens, c'est l'occasion de faire un petit point sur les demi-finales, juste avec Antoine de National.
Ça vient de se finir à l'instant, François. Nice qui décroche son billet pour la finale de National en s'imposant 35-13 face à Suresnes. En finale, ils affronteront soit Narbonne, soit Carcassonne. Ça se joue actuellement, ça va être la mi-temps dans un instant. Mais Carcassonne est repassé devant sur la pelouse de Narbonne 20-12 grâce à un essai de Carbou, le talonneur, il y a quelques instants. Pour l'instant, c'est Carcassonne qui rejoindrait Nice en finale de ce championnat de National.
Ouais, la fin de l'aventure des Surénois de David Oradou. Voilà, tiens, t'as un ancien coéquipier à toi, Fabrice, au Stade Français. Voilà, on en parlait avec lui lundi, on l'a eu dans l'émission Bibi Oradou, et il nous disait que le modèle économique n'était pas facile. Justement, comment toi, qui vois ça en Pro D2, comment
il
on
a connu avec Cognac aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais comment on arrive à faire vivre le rugby quand on a peu de budget, que c'est professionnel, mais le statut surtout plus que le salaire. Comment on fait ?
On parle de double projet en amateur. On parle de double projet. On essaie d'amener d'abord de s'appuyer sur des jeunes joueurs. Hein, des jeunes joueurs qui sont étudiants encore et qui on propose des doubles projets, donc soit avec des contrats d'apprentissage, soit avec des formations en alternance. Donc le salaire qui va en découdre leur permettra justement de vivre. Et puis après, on leur propose également des entraînements qui sont pas aussi calibrés que ce qu'on peut connaître chez les professionnels, mais ils seront quand même encadrés par un préparateur physique, par des kinés, par plusieurs entraîneurs, notamment des entraîneurs de ligne avec un manager. Donc on essaie de faire durer ça, mais là on sent vraiment qu'aujourd'hui il y a une différence entre la Pro D2 et la National 1. Là on parle de Narbonne, on parle de Carcassonne, ce sont des clubs qui ont vécu et qui ont connu la Pro D2 pendant de longues années, donc ils sont encore sur ces critères-là, et Albi est dans le même système. Ensuite, pour tous les autres clubs qui veulent se structurer, il faut énormément d'argent, et ça c'est un peu compliqué parce que dans le rugby amateur aujourd'hui c'est pas les buvettes et c'est pas les entrées qui vont vous faire un budget. Donc ça veut dire organiser une société commerciale, faire des hospitalités, créer un véritable engouement à travers les résultats, à travers son équipe. Il faut fédérer un territoire, et ça passe aussi par les élus, par les politiques qui sont là pour aider les clubs, parce que ben c'est très très compliqué aujourd'hui de lever 3, 4, 5 millions d'euros de budget pour pouvoir exister en national et plus haut en Pro D2 où il faut un petit peu plus.
Fabrice Landreau avec nous en direct sur Sud Radio. Fabrice, quel regard tu portes toi sur le top 14 de cette année? Voilà un peu cette course qui est très serrée.
Ouais, c'est très serré. Je suis émerveillé par ce championnat. Je trouve qu'il a vraiment pris notre dimension depuis deux saisons. Le Stade Toulousain nous régale à chaque fois. L'UBB est en train de monter en puissance. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Même Oyonnax, qui malheureusement est le dernier de ce championnat, a fait de très belles performances. C'est une équipe très très solide. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a plus ces passerelles qui étaient, on va dire, plus facilitantes il y a quelques années de ça, où un club de Pro D2, s'il était un petit peu structuré, avec une équipe un peu solide, pouvait éventuellement s'en sortir en top 14. Aujourd'hui, c'est plus possible.
Ça veut dire qu'il faudrait fermer la Ligue, selon toi? Enfin, à un moment, il va falloir penser à ça ou pas?
À un moment donné, François, il faudra se poser des vraies questions par rapport à nos joueurs qui sont surchargés de matchs à l'international, avec l'équipe de France, qui sont surchargés par la Coupe d'Europe, surchargés par les matchs de championnat. Et donc, peut-être qu'il faudra à un moment donné se dire, il n'y a qu'une seule descente. Et puis peut-être réduire, de passer à 14, de passer à 12, pour que ce soit, pour essayer de récupérer des dates et qu'il y ait aussi un petit peu de récupération pour les joueurs. Et pour peut-être également permettre avoir des rencontres plus liées à l'international, que qu'on puisse chercher des ressources plus vers l'international. Alors il y a la Coupe d'Europe, mais pourquoi pas si c'est encore dans les tuyaux une coupe du monde des clubs. Mais en tout cas, il faudra, pour créer de la richesse, il faut créer des matchs de haut niveau pour créer de l'engouement. Et il faut pas qu'un public d'initié aujourd'hui, si on veut s'en sortir, il faut un public qui vient pour un spectacle, qui vient assister à des belles rencontres, qui veut voir des essais, qui veut voir du jeu, qui veut passer un beau moment, et puis qui est prêt à consommer dans un stade de rugby, quoi.
Alors, en écoutant la radio, bien sûr, Sud Radio, la radio du rugby. Merci Fabrice d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir. Et t'aurais aimé, toi, jouer dans ce top 14 d'aujourd'hui, là, toi qui as été talonneur au Stade français, ouais, notamment, et à Grenoble avant?
Ouais, tu sais, François, je me pose souvent la question quand j'assiste à ces rencontres-là en bord du terrain ou dans les trimmings, je me demande si j'aurais eu, à l'heure actuelle, si j'aurais eu les capacités pour jouer à ce niveau-là. Parce que j'ai l'impression que ce qu'arrivent à faire les joueurs aujourd'hui, j'étais incapable de le faire à leur âge. Et est-ce que j'aurais su m'adapter? Est-ce que j'aurais pu avoir les mêmes qualités? Je ne sais pas. Donc je m'interroge des fois. Je dis, est-ce que moi, de ma génération, j'aurais pu avoir la chance de jouer à leur niveau et de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui? Parce que voilà, je pense qu'ils doivent prendre un pied énorme sur les pelouses chaque week-end.
Moi, je pense que oui. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, parce que t'étais quand même un gros travailleur. Allez, merci Fabrice. À très bientôt, merci, sur l'antenne de Sud Radio. Plein de beaux projets avec le SA15. Bien sûr, félicitations pour ce maintien. Dans un instant, on va se retrouver. Tiens, un petit point peut-être sur... Non, c'est la mi-temps, tu disais, à Narbonne, et
exactement,
c'est fini à Nice. Hein, donc
exactement,
on rappelle, Nice en finale de National, 35-13 face à Suresnes, et Carcassonne qui mène à la mi-temps à Narbonne. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du match du soir, l'UBB face à La Rochelle.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.
Quand on ne se fait pas entendre, nous agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le monsieur le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit.
Sud Radio, parlons vrai.
Chez Autosécurité, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Autosécurité fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur autosécurité.com. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence. Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Miles Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 € par mois.
Arcana Business Mile Hybrid, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. Si Accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Avec vous, les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby avec UANUG, bien sûr, la team Sud Radio est réunie. Et on est content d'accueillir Rémi Lamera, qui est avec nous, ancien joueur international, bien évidemment, ancien joueur du Stade Toulousain, mais qui a terminé sa carrière à l'UBB. Salut Rémi.
Salut François, salut la team.
Ben ouais, Johan, salut Rémi. Rémi, vous, je vous présente pas, hein.
Non, on se connaît bien. Non,
on a grandi ensemble. J'ai vu quelques photos, il n'a pas changé, ça va.
Bon, Alexandre est là, bien sûr, avec nous pour accueillir quand même Rémi. Tu as terminé, je le disais, ta carrière qui a été brillante du Stade Toulousain à Castres, à Clermont et à l'UBB. L'UBB ce soir face à La Rochelle. Juste un petit, on commence comme ça par la question actuelle avant d'élargir un petit peu. Comment tu les sens, ces Bordelot Béglé face à La Rochelle, qui est un peu leur bête noire quand même ce soir. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais écoute, je les sens quand même plutôt bien parce qu'il y a cette dynamique depuis la victoire contre Bayonne qui résonne quand même comme un gros signal envoyé en cette fin de saison. Donc voilà, la Coupe d'Europe étant maintenant off. Je pense que toutes les forces vives sont du côté de Bordeaux ce soir, mais bon voilà, La Rochelle cherche ce Brennus depuis pas mal d'années, donc ça va être un beau défi pour ce quali tant attendu par les deux équipes.
Tu continues à avoir un lien avec l'UBB, tu passes de temps en temps les voir, on va dire que ça te chatouille encore un peu ou pas du tout?
Non, ça me chatouille plus, mais effectivement, j'ai toujours un lien avec les copains, notamment les plus vieux, on va dire, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer quelques saisons.
Les plus sages aussi.
Les plus sages, effectivement, ceux qui ont le moins soif. Tu vois, parce qu'ils gagnent de temps en temps la propriété. Alors, je citerai pas de nom, mais tu en imagines quelques-uns. Mais voilà, j'ai la chance d'être patrimoine Bordeaux dans mon nouveau projet, donc j'ai souvent des têtes.
Demain de grand jour, c'est ça?
Exactement, c'est gentil, merci pour la pub.
Avec grand plaisir,
Non mais Rémi, ce qui est intéressant, c'est que tu as basculé dans un projet où tu es aujourd'hui quoi, vigneron, viticulteur, comment tu veux qu'on t'appelle?
Ouais, vigneron, c'est ça, ouais.
Bon, proche de la nature, comme il a toujours été, et du vin.
Ouais, du vin souvent, ouais, de la nature, ça dépend bien, mais effectivement, vigneron, de l'agriculture de la vigne et la transformation du raisin en vin pour essayer de passer de bons moments.
Avec ton activité, Rémi, t'es proche du club, j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui étaient venus, c'est amicalement, ils sont venus t'aider, ou c'était avec un projet par rapport au club, t'aider dans tes vignes?
Non, c'est plutôt amicalement, parce que tu sais que le vin et le rugby, c'est assez lié, mais à ce niveau-là, il vaut mieux rester un peu éloigné. Mais effectivement, on doit de faire des journées vendanges où on boit pas, on travaille, où on récolte un raisin, on va dire. C'est des choses que des mecs n'avaient jamais fait et m'ont sollicité pour venir vivre l'expérience, donc c'est plutôt sympa, quoi.
Ouais, qui est quand même le plus vaillant, on peut le dire ça, le plus vaillant pour les vendanges, parce que c'est dur les vendanges quand on a toute la hotte pleine de grappes là.
Ça sent le vécu.
Ce que je décris, ça sent le vécu.
Ouais, alors le plus vaillant pour déboucher, je pense que tu as le nom. le plus vaillant pour porter la hotte, je dirais Max Lamotte, mais c'est parce que lui il peut pas se baisser pour amasser les raisins. Donc
voilà, c'est pour ça qu'il a prolongé peut-être à l'UBB, Max Lamotte.
Grâce à toi. Effectivement.
Bon, juste quand même pour avant de revenir sur le rugby, mais quand même Rémi, toi tu as commencé donc ton activité de vigneron récemment, t'as acquis un domaine, on est d'accord, hein, voilà, oui, dont parlait Alexandre.
Un château.
Bon, alors un château, c'est un grand nom, mais c'est un domaine, en tout cas c'est du travail et c'est dur. Comment ça se passe, parce que c'est une conjoncture très difficile pour les vignerons dans le Bordelais, il y a beaucoup d'arrachage. Comment toi tu vis cette situation?
Ben forcément compliqué, parce que ça fait pas une superbe pub à l'appellation. En revanche, je pense que c'était assez nécessaire, parce qu'on est arrivé au bout d'un système où il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes, donc ça faisait forcément partir sur d'autres régions et les viticulteurs qui essayaient de travailler correctement n'étaient pas trop récompensés. Donc voilà, ça va un petit peu écrémer en termes de volume, et puis peut-être se concentrer un petit peu plus sur la qualité en essayant de faire des choses un peu différentes.
Et ce qui est dur, c'est la commercialisation quand même du vin. Comment toi tu t'y prends, et est-ce que ta carrière de rugby te sert dans ce sens?
Oui, elle me sert. Alors le plus dur, est-ce qu'on a beau mettre toute la bonne volonté, la motivation, le travail qu'on veut, ben on peut tout perdre en quelques heures. Ça c'est très compliqué. Et effectivement, la commercialisation aujourd'hui est un sujet dans les vins de Bordeaux, mais il y a des alternatives. On essaye des cépages d'ailleurs, on essaye des types de vinifs un petit peu différents. Enfin, pour ma part, à travailler peut-être aussi hors appellation, à savoir du vin de France comme on appelle, et essayer de ramener les gens et notamment les jeunes à Bordeaux sur des vins un peu plus simples à boire, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire quand même avec cette difficulté.
Voilà, il faut avoir...
Rester optimiste.
L'enthousiasme, c'est bon. Non mais c'est incroyable, c'est un métier extraordinaire quand même que dans lequel tu t'es lancé, parce que t'es à la fois chef d'entreprise, agriculteur entre guillemets, et aussi commerçant. Il faut aller sur les foires, c'est dur.
Ouais. Justement, je me posais la question, Rémi, est-ce qu'on peut venir à Ivrac, au domaine Grand Jour pour faire une dégustation? Comment ça se passe?
Ouais, effectivement, mais là on est en train, de monter une guinguette. Donc j'ai passé toute la journée avec un ami Mickaël à faire un cabanon. On va recevoir les gens, on va allumer le brasero, on va faire déguster les vins et puis on va essayer de faire un domaine qui vit. Et puis quand on veut venir de façon un peu moins festive, on va mettre en ligne sur notre site internet des espèces de créneaux agenda où voilà, les gens peuvent venir réserver une marche d'une heure autour des parcelles pour voir un petit peu l'environnement de la propriété et terminer la visite par une dégustation au chai.
Bon, revenons quand même à nos moutons rubistiques, Rémi Lamora. Qu'est-ce que tu penses, toi, et en tout cas, félicitations quand même pour ce beau travail de vigneron et qui est passionnant et qu'on relaiera dès qu'on le pourra, voilà, parce que c'est vrai que c'est une initiative intéressante. Et de ce fait, la carrière sportive te manque pas, Rémi?
Certaines parties de la carrière, si, forcément, l'entrée sur le terrain, les frissons à la fin de beaux résultats ou des émotions que je pense on a eu la chance de vivre à une intensité incroyable. Après, j'ai un projet qui me plaît beaucoup, qui me prend beaucoup de temps surtout et d'énergie. La famille aussi à côté qui est partie prenante du projet puisqu'on vit sur place. Donc on va dire que j'ai pas de temps d'ennui où je ressasse un peu les actions, les moments, etc. Et je reprends toujours autant de plaisir à vivre des moments à travers des matchs, que ce soit souvent au stade parce qu'à la télé pas trop, de temps en temps à la radio, tu vois, quand je conduis, où je me dis putain, quelle chance on a eu, quoi. Donc voilà, plutôt un regard satisfait et honoré d'avoir pu vivre ça qu'aigri, quoi.
Ouais, qu'est-ce que tu retiens de tes trois titres là? On va dire, t'as vécu des épopées. T'étais jeune au Stade Toulousain, puis ensuite il y a eu Castres, le titre 2013, puis le titre 2017 avec Clermont, la finale perdue contre Toulouse en 2019, si tu vois ce que je veux dire, Johan. Qu'est-ce que tu retiens, toi, le plus de ta belle carrière et longue carrière?
Oh, le plus, je sais pas, mais effectivement, ces titres, c'est marquant, même si je les ai vécus, comme tu l'as dit, à des stades de ma carrière assez différents. Celui de 2017 résonne quand même assez fort parce que on avait quand même cette année-là une super génération à Clermont. Il y avait aussi l'équipe de France à côté. Je m'étais vraiment épanoui cette année-là, mais en termes de souvenirs, c'est compliqué d'en sortir un. Si ce n'est peut-être les adieux, on va dire, à Chaban en costard, parce que j'étais hors groupe et j'étais plus du tout invité à ce moment-là de la saison, et de voir ma mère en tribune qui a sacrifié jeune un gamin de 15 ans qui part de la maison et les parents qui laissent faire pour vivre un rêve. Et ça, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est peut-être pas ça le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, quoi? Et je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai aujourd'hui sur un terrain.
Eh ben, c'est un bel hommage en tout cas, et t'étais parti de Sainte-Foy-la-Grande à Toulouse. Merci, ouais. Rémi, d'avoir été avec nous. Un petit prono juste pour terminer sur ce UBB La Rochelle, en toute objectivité.
Merci à vous.
Oui, mais forcément, donc toute objectivité, bon, je vois une victoire de l'UBB, j'espère, des copains de l'UBB, mais j'ai aussi beaucoup de copains à La Rochelle, notamment dans le staff. Donc voilà, je vois bien La Rochelle prendre un point de bonus défensif et qu'on voit des essais, parce que je pense qu'on va avoir du jeu ce soir, donc je verrai bien un petit 36-34 pour l'UBB.
Et Rémi, tu penses
le
que
le bonus Bordeaux def pour Rémi Thalès, c'est bien.
Il veut pas de problème, Rémi, c'est pour ça. Tu penses que Bordeaux peut se qualifier directement pour les demi, Rémi?
Je leur souhaite, mais vu le calendrier, ça me paraît assez compliqué. Mais bon, tu sais comme moi, Johan, que dans ce championnat, arriver à pronostiquer, même à 3 journées de la fin, c'est tellement compliqué que, ouais. Je leur souhaite, parce que c'est vrai que de passer un week-end de repos pour se ressourcer à ce stade-là de la compète aujourd'hui, vu l'intensité du championnat, je pense que c'est ce qui fait la diff après dans la dernière ligne droite.
Ouais, c'est aussi compliqué que les prévisions météo pour un vigneron. Merci Rémi Lamora.
Très fort, mettez fort, François, merci. Mettez
allez,
fort.
La bise et à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. À très bientôt. Allez, on se retrouve dans un instant, les news, la libre antenne, et puis 20h30, on sera avec Bernard Lemaître, le président de Toulon. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans.